Est-ce que vous vous souvenez, dans votre enfance, vous êtes entendu dire « quand tu seras grand, tu feras ceci ou cela », peut-être vous-même vous l'avez dit, « quand je serai grand, j'aimerais être ceci, cela, peut-être pompier, peut-être coureur de course, voiture de course ». Mais lorsqu'on devient chrétien, eh bien, notre devise change, c'est tout l'inverse. Vous vous rappelez, Jésus nous invite à imiter les enfants pour leur humilité, non pas l'humilité, non pas qu'ils soient parfaits, mais parce qu'ils sont humbles. Et notre mot d'ordre, lorsqu'on devient chrétien, c'est plutôt que de dire « quand je serai grand, quand je comprendrai », c'est plutôt de dire « je vais reprendre le titre d'un album d'un couple de chanteurs que peut-être certains connaissent, Denisa, et il y a un de leurs albums dont le titre est « quand je serai petit ». Alors, ça devrait effectivement être notre mot d'ordre dans notre vie chrétienne, de viser à la ressemblance de Jésus, qui s'est fait petit pour nous sauver. Alors, pour resituer le contexte, je poursuis mon parcours de l'évangile de Marc. Au chapitre précédent, dans les versets, chapitre 9, versets 30 à 37, on avait vu Jésus prendre pour modèle les enfants. Il s'agit donc pour l'adulte de devenir comme un enfant pour entrer dans le royaume de Dieu. Parce qu'il s'agit bien de recevoir le royaume de Dieu, et non pas d'essayer d'y rentrer par nos propres efforts, par nos mérites. Et donc c'est comme si la porte du royaume des dieux, le royaume des cieux, était de la hauteur d'un enfant. Un enfant, il a déjà la bonne hauteur pour y entrer. Tandis que nous autres adultes, eh bien, on a besoin de se baisser pour y entrer par cette porte, qui est à la taille d'un enfant. Alors l'histoire qui suit, et vraiment la parole de Dieu, elle est exactement comme elle doit être, que Dieu bénisse sa parole. L'histoire qui suit, c'est pas par hasard si elle est juste derrière ce récit concernant les enfants, parce que c'est l'histoire du jeune homme riche. L'histoire qui suit est là justement pour nous faire prendre conscience que le royaume de Dieu ne se mérite pas, mais se reçoit. Donc je vous invite à prendre dans vos Bibles Marc, l'évangile de Marc, donc la suite, chapitre 10, et on va reprendre du verset 17. Je lirai dans un premier temps jusqu'au verset 31, et dans un deuxième temps, je lirai après la suite. Donc Marc 10, verset 17 au verset 31. Je vais encore prier. Seigneur, merci encore pour ta parole, pour nous l'avoir laissée. Seigneur, qu'elle agisse en nous, qu'elle germe en nous, Seigneur, qu'elle produise le fruit que tu veux à ta gloire, dans nos vies et personnelles, dans nos vies de famille, dans nos vies d'église, dans nos vies aussi avec ceux de l'extérieur. Seigneur, nous te remettons ces moments et merci de nous disposer à recevoir ta parole. Je mets tout souci, tout ce qui occupe inutilement notre esprit, je le mets à l'extérieur. Et Seigneur, merci de nous aider à nous concentrer sur ta parole. Je me repose sur toi pour ce message en Jésus-Christ. Amen. Donc je lirai Marc 10, les versets 17 à 31. Comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut et, se jetant à genoux devant lui, il lui demanda « Bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui dit « Pourquoi m'appelles-tu bon ? Personne n'est bon si ce n'est Dieu seul. Tu connais les commandements. Ne commets pas de meurtre, ne commets pas d'adultère, ne commets pas de vol, ne dis pas de faux témoignages, ne fais de tort à personne, honore ton père et ta mère. » Il lui répondit « Maître, j'ai gardé tout cela dès ma jeunesse. » Jésus, l'ayant regardé, l'aima. Puis il lui dit « Il te manque une chose, va. » Vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. » Mais lui s'assombrit à ces paroles et s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Jésus, regardant autour de lui, dit à ses disciples qu'il est difficile à ceux qui ont des biens d'entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples étaient stupéfaits par ces paroles. Et Jésus reprit et leur dit « Mes enfants, qu'il est difficile d'entrer dans le royaume de Dieu. » Il est plus facile à un chameau de passer par le trou de l'aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples s'étonnaient encore davantage et se disaient les uns aux autres, « Alors qui peut être sauvé ?» Jésus les regarda et dit, « Cela est impossible aux hommes, mais non à Dieu, car tout est possible à Dieu. » Pierre se mit à lui dire, « Voici que nous avons tout quitté et que nous t'avons suivi. » Jésus répondit, « En vérité, je vous le dis, il n'est personne qui ait quitté à cause de moi et de l'Évangile maison, frère, sœur, mère, père, enfant ou terre, et qui ne reçoive au centuple, présentement, dans ce temps-ci, des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres, avec des persécutions et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Plusieurs des premiers seront les derniers, et les derniers seront les premiers. » Amen. Jusqu'ici, pour le moment, la parole de Dieu. La vérité qui m'est apparue dans ce passage, la vérité centrale, c'est que, eh bien, si nous voulons être grands, eh bien, on devient grand quand on abandonne nos prétentions à l'être. On devient grand quand on abandonne nos prétentions à l'être. Et c'est ce que je vous invite à voir. Donc, mes deux premiers points pour ce texte-là, ça sera, premièrement, nos prétentions pour être agréés par Dieu, par l'observation de la loi. Eh bien, voilà, on est invité à les abandonner si on veut être grand dans le royaume de Dieu. Nos prétentions à mériter le royaume de Dieu par l'observation de la loi. Deuxièmement, nous verrons qu'on devient grand en acceptant que c'est Dieu qui nous sauve. On devient grand en acceptant que c'est Dieu qui nous sauve. Et mon troisième point, je le garde pour tout à l'heure, avec le texte la suite du texte. Premièrement donc, eh bien, on devient grand quand on abandonne nos prétentions pour être agréé par Dieu par l'observation de la loi. Voilà donc un jeune homme se jette aux pieds de Jésus, se met à genoux aux pieds de Jésus, lui demande « Bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Verset 17. Ce à quoi Jésus répond, une réponse qui peut surprendre, « Pourquoi m'appelles-tu bon ? Seul Dieu est bon. » Jésus n'est pas en train de nier sa divinité là. Ce verset a été repris et tordu par d'autres, par certains groupements. Jésus ne nie pas sa divinité. Il lui pose une question à ce jeune homme pour lui faire prendre conscience qu'il ne le reconnaît pas comme ce qu'il est, c'est-à-dire comme Dieu, comme le Fils de Dieu et Dieu lui-même. Ce jeune homme a ce problème. Il ne reconnaît pas Jésus pour qui il est, c'est-à-dire le Fils de Dieu, Dieu lui-même. Seul Dieu est bon. Alors, eh bien, Jésus va enseigner ce jeune homme et il va l'entraîner sur le terrain des 10 commandements. Et il va l'entraîner là où il se situe déjà, c'est-à-dire dans le faire. La question du jeune homme, c'est que dois-je faire pour avoir la vie éternelle ? Et Jésus veut le convaincre que l'observation des commandements de Dieu, quoique bonne, j'insiste, quoique bonne, ne suffit pas pour être agréé par Dieu, pour être sauvé. Le jeune homme fonctionne sur la loi. Eh bien, Jésus va lui en mettre une bonne dose de loi. Vous avez remarqué, Jésus omet les 4 premiers commandements, les 4 premiers des 10 commandements. Les 4 premiers font référence à notre rapport, à notre relation à Dieu, et les 6 derniers, nos rapports les uns avec les autres. Jésus omet les quatre premiers commandements qui concernent notre relation à Dieu, et il cite les derniers qui nous touchent à notre relation à notre prochain, verset 19, hein, je l'ai redit, sur cette reprise des commandements, des 6 derniers commandements. Tu connais les commandements, ne commets pas de meurtre, ne commets pas d'adultère, ne commets pas de vol, ne dis pas de faux témoignages, ne fais de tort à personne, honore ton père et ta mère. Le jeune homme répond qu'il a déjà observé toutes ces choses. Et sa réponse, elle est déjà révélatrice de son cœur. En fait, il ne se voit pas comme il est. Il se croit juste. Il se croit juste par lui-même. Mais il a oublié une chose. Il a oublié que désobéir à un seul commandement, c'est désobéir à toute la loi. Ce que redit l'épître de Jacques, chapitre 2, verset 10, je vous le lis, Jacques 2, 10. « Car quiconque observe toute la loi, mais pèche contre un seul commandement, devient coupable de tous. » Et je prendrai un autre exemple, hein. Le premier, hein, Adam et Ève. Par combien de désobéissances avaient-ils péché ? Une seule, celle de ne pas manger du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. À ce moment-là, en Genèse, Dieu n'avait pas encore donné les 10 commandements. Résultat, par la désobéissance à un seul commandement, le péché est entré dans le monde avec toutes ses conséquences catastrophiques. La souffrance, la mort, qui touche tout le monde. Un seul commandement. Désobéissance à un seul commandement. Alors Jésus, avec beaucoup de tact, va le mettre à l'épreuve, ce jeune homme, et il va le confondre, comme lui seul sait le faire. Il va mettre le doigt là où ça fait mal, c'est-à-dire le porte-monnaie. Il le met au défi. Si tu veux être parfait, vends tout ce que tu as, puis viens et suis-moi. Et l'homme en est incapable. Il se rend compte que son obéissance a ses limites et qu'il n'est pas si parfait qu'il croyait l'être. Il ne peut pas y arriver par lui-même. Alors, eh bien, il s'en va tout triste. Son histoire s'arrête là, on ne sait pas après ce qu'il est devenu. Jésus a réussi, il l'a convaincu de pécher. Pourquoi ? À quoi le jeune homme avait-il désobéi ? Eh bien, il avait désobéi au premier et au second commandement, que je vous répète, que Jésus n'a pas cité. Le premier commandement, c'est « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » Et le second, « Tu ne te feras pas d'idole. » Là, eh bien, le jeune homme a montré qu'il avait une idole. C'était une idole qu'il ne voyait pas. C'était son argent. Et il a aussi failli au second commandement dont parle Jésus, qui est semblable au premier, le second commandement qui est « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Il avait aussi failli à ce commandement. Il n'a pas su aimer les pauvres en leur donnant une part de ses richesses comme Jésus l'y invitait. Il n'a pas aimé son prochain qui était dans le besoin. On a vu la semaine dernière, Pascal a vu la parabole de Lazare et de l'homme riche. Cet homme riche vivait dans l'opulence. Il ne s'occupait pas de celui qui souffrait à sa porte. Verset 21, Jésus l'aima. Jésus aimait ce jeune homme. Jésus l'aima, mais l'homme a aimé ses richesses plus que celui qu'il a aimé et plus que son prochain. Sa piété enthousiaste, c'était quelqu'un qui a une piété, ce jeune homme, elle a cédé la place au découragement. Il est parti. Et vous avez remarqué, Jésus n'insista pas. Il le laissa partir. Alors, on remarque quand même, ce jeune homme riche, il avait quand même fait l'effort d'aller vers Jésus. Et je crois, on ne connaît pas la fin de l'histoire, mais le Seigneur sait parfaitement que, une fois que sa parole a été donnée et entendue, elle ne revient pas à lui sans effet. Voilà, on ne connaît pas la fin de l'histoire, mais on peut effectivement supposer qu'il y a eu une fin. On ne sait pas. Mais en tout cas, il avait quand même fait l'effort d'aller vers le Seigneur. Alors la question du jeune homme riche, c'est que dois-je faire pour avoir ? Que dois-je faire pour avoir ? Pour avoir quoi ? La vie éternelle. Alors, un jeune homme riche, il possède beaucoup de choses. Et là, il veut avoir quoi ? La vie éternelle. Le jeune homme riche, on a ici, c'est un juif, parce qu'il connaît. Il connaît très bien les commandements, il connaît la loi. Cette question, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle, elle diffère de celle d'un non-juif, un peu plus tard, celle d'un geôlier romain qui a demandé à l'apôtre Paul, qui était en prison, il lui a posé cette question. Que dois-je faire pour être sauvé ? Alors, le jeune homme riche, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle ? Le païen, que dois-je faire pour être sauvé ? Le jeune homme riche n'avait pas conscience qu'il avait besoin d'être sauvé de ses péchés. Il voulait obtenir quelque chose de plus, la vie éternelle. Et il cherchait à être bon par ses propres mérites. Et Jésus va lui faire comprendre que l'observation des commandements de Dieu, quoique bonne, n'enlève pas le péché. L'observation des commandements de Dieu n'avait pas rempli les besoins de son âme. Et le premier besoin de son âme et de la nôtre, c'est d'être sauvé de nos péchés, d'être pardonné. Besoin que seul Jésus peut combler. Jésus, par deux fois, hein, quand même, par deux fois, va dire qu'il est, à ses disciples, hein, qu'il est difficile d'entrer dans le royaume de Dieu, particulièrement pour les riches. Versets 22 à 25, c'est difficile. Mais je continue. Les disciples sont étonnés de cette réponse de Jésus. Pourquoi ? Parce que d'ordinaire, chez les Juifs, être riche, c'était signe d'avoir reçu la bénédiction de Dieu. L'abondance, l'opulence, c'était signe qu'on était béni par Dieu. Chez les Juifs. Ici, cet homme, il semble avoir tout pour plaire aux hommes et pour plaire à Dieu. Il connaît la loi, il a de bonnes manières pour se mettre aux pieds de Jésus. Il est riche. Bref, il aurait fait un gendre idéal, peut-être. C'était quelqu'un de bien aux yeux des hommes. Mais pour Dieu, ça ne suffit pas. D'où la question des disciples qui sont étonnés. Qui peut être sauvé ? Qui peut être sauvé ? Eh bien, mon deuxième point, c'est qu'on devient grand. On devient grand en acceptant que c'est Dieu qui nous sauve. On devient grand en acceptant que c'est Dieu qui nous sauve. Mon deuxième point. Qui peut être sauvé? Eh bien, ce à quoi Jésus répond, aux hommes cela est impossible, mais à Dieu tout est possible. Vous vous rappelez au chapitre précédent, chapitre 9, verset 23, donc c'était Jésus avait dit au père de l'enfant possédé, il lui avait dit, tout est possible à celui qui croit. Alors en rapprochant ces deux versets, le salut est l'œuvre de Dieu, tout est possible à Dieu, c'est lui seul qui peut nous sauver. Quelle est notre part? La part de l'homme, c'est de croire. Tout est possible à celui qui croit. Notre part, c'est de croire. Croire en son Fils, Fils de Dieu, Jésus, le seul homme sans péché qui ne méritait pas de mourir, mais qui a accepté de prendre notre punition en mourant sur la croix pour nous sauver. Il a rendu possible l'impossible. Alors, eh bien, aucune raison de se vanter. Aucune raison de nous vanter d'être grand par l'observation de la loi, parce que seul Jésus a pu l'accomplir parfaitement. Si on creuse un peu plus le texte, vous avez remarqué, Jésus pose au jeune homme riche, si tu veux être parfait, le si, le petit mot là, si. Je crois qu'il s'adresse en particulier à ce jeune homme riche. Si tu veux être parfait, il s'adresse en particulier au jeune homme riche. Pour le tester, en fait. Pourquoi? Parce que Jésus demande à nous tous d'être parfaits. Pas seulement. Au jeune homme riche, il lui pose la question. Si tu veux être parfait. Mais à nous, il nous dit, Matthieu 5, 48, soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Et ça, ça s'adresse à tout croyant. Alors oui, le salut conduit à des renoncements. Mais ne tombons pas dans cet extrême de dire « c'est en vendant tout ce que j'ai que je serai sauvé ». C'est pas ça que veut nous enseigner cette histoire. C'est pas de tout vendre qui va nous rendre parfait. Déjà, il s'agit de renoncer à quoi? De renoncer au péché. Et seule la foi dans le sacrifice expiatoire de Jésus sur la croix nous rendra purs. Et nous amènera à la perfection exigée par Dieu. Voilà pourquoi la demande de tout vendre s'adresse en particulier à ce jeune homme riche. Jésus est en train de le tester. Ça s'adresse à ce jeune homme riche et pas à tout le monde. Pour bien montrer que le royaume de Dieu ne se mérite pas, mais qu'il se reçoit. Le royaume de Dieu ne se mérite pas comme le croyait ce jeune homme riche. Il se reçoit, mais il se reçoit comme un cadeau par grâce, accessible à celui qui veut bien le recevoir, accessible par la foi, à la manière d'un enfant. Ce n'est pas par hasard si le récit sur l'humilité des enfants est juste avant ce récit. Le royaume de Dieu se reçoit, il ne se mérite pas. Si on extrapole un peu, si l'histoire s'était passée autrement, on aurait pu peut-être inventer une autre suite. Mais et là, je vous invite avec un autre « si ». Si le jeune homme riche avait dit à Jésus, « C'est trop ce que tu me demandes, j'en suis incapable de tout vendre, de vendre tous mes biens, je ne peux pas. Sauve-moi. » Si le jeune homme riche avait dit cela à Jésus, Jésus l'aurait sauvé. Il aurait pu le sauver s'il avait placé sa confiance sur lui et non pas sur ses richesses. Et dans le meilleur des cas, le jeune homme riche, eh bien, il aurait obéi en vendant ses biens, dans le meilleur des cas. Il aurait ensuite obéi s'il avait vendu ses biens. Jésus, d'abord, aurait pu le sauver, s'il avait demandé à Jésus de le sauver. Mais dans le meilleur des cas, s'il avait fait ce que Jésus lui avait demandé, de vendre tous ses biens, eh bien là, il aurait eu non seulement le salut, mais il aurait eu une récompense. En plus, une récompense dans le ciel et une vraie joie déjà sur terre, au lieu de la tristesse avec laquelle il est reparti. Oui, c'est plus difficile à un riche de tout laisser et de suivre Jésus. C'est plus difficile pour un riche. Les disciples, eux, ils ont tout laissé. Ils ont tout laissé, effectivement, pour obéir à l'appel de Jésus. Pierre le rappelle, au verset 28. Eux, ils l'ont fait. Que leur promet Jésus ? Jésus leur promet de retrouver au centuple ce qu'ils ont laissé, 10 000%, au centuple. C'est-à-dire des maisons chez des frères et des sœurs en Christ, où on se sent accueilli, de retrouver de nouveaux frères et sœurs, et on en a beaucoup dans le monde, qu'on ne connaît pas encore, de retrouver des terres conquises pour le Seigneur. Avec, Jésus nous le dit, on n'est pas surpris, aussi des persécutions. Des persécutions sur terre, déjà. Et ces persécutions, voyons-les comme une récompense. Comme une récompense au ciel en plus de la vie éternelle. Quand on est jugé digne de souffrir pour le Christ, c'est une récompense. Jésus a dit quand même qu'il est difficile aux riches d'entrer dans le royaume de Dieu. Est-ce que ça veut dire que les richesses sont mauvaises ? Non ! Non ! La question à se poser, c'est plutôt qu'est-ce que j'en fais ? Est-ce que je compte sur mes richesses pour assurer ma sécurité ? Ça, c'est plutôt l'esprit du monde. Oui, est-ce que je compte sur mes richesses pour être sauvé ? Le jeune homme riche, il avait lui, il voulait avoir la vie éternelle. Une autre question qu'on peut se poser, comment est-ce que nous utilisons les biens que Dieu nous donne ? Comment est-ce que nous les utilisons ? En nous rappelant que ces biens, ils viennent de lui, tout vient de lui. Comment est-ce que nous utilisons nos richesses au regard de tant de misère dans le monde, tant de sans-abri, tant de personnes et d'enfants qui meurent de faim? J'ai vu une vidéo de Porte Ouverte où, là, il s'agit de chrétiens. Beaucoup de frères et sœurs chrétiens ont été chassés de chez eux. Ils vivent dans des camps de réfugiés, dans des tentes de 2 mètres carrés avec leur famille. Ils ont montré les photos. Est-ce que j'aime mon prochain comme Jésus me le demande ? Une autre manière d'utiliser nos richesses, soutenir l'œuvre de Dieu. Ceux qui sont partis, qui comptent sur l'Église pour les soutenir, parce qu'ils ont besoin d'un salaire et ils travaillent. Donc une autre façon de donner, eh bien, c'est de soutenir l'œuvre de Dieu. En donnant à la mission, en donnant à l'Église. Et ce qui peut nous aider, c'est que quand on donne, c'est une loi. Quand on donne, on reçoit. C'est une loi qui nous aide à être généreux. Avec une promesse que je vous lis en 2 Corinthiens 9, verset 6, l'apôtre Paul, hein, 2 Corinthiens 9, 6, « Sachez-le, celui qui sème peu moissonnera peu, et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. » Alors, c'est pas non plus... on ne peut pas manipuler Dieu. Hein. On ne peut pas marchander avec lui. Hein, tout vient de lui. Donc attention à nos motivations, attention à ne pas encourager le marchandage avec Dieu, en nous rappelant que Jésus n'est le débiteur de personne. Il n'est le débiteur de personne. Il ne suffit pas de bien commencer notre vie chrétienne de disciple, mais de bien la terminer. Et Jésus termine ce passage au verset 31 en disant « Plusieurs des premiers seront les derniers, et les derniers seront les premiers. » Alors cette parole qu'il a dit aux disciples, elle n'a pas été reçue par tout le monde. C'est ce que je vous invite à voir avec la suite du récit. On reprend au verset 32. Et je lirai jusqu'au verset 45. Marc 10, à partir du verset 32, là où nous en sommes arrêtés. Ils étaient en chemin pour monter à Jérusalem, et Jésus allait devant eux. Les disciples étaient angoissés, et ceux qui suivaient étaient dans la crainte. Jésus prit de nouveau les 12 auprès de lui et se mit à leur dire ce qui devait lui arriver. « Voici, nous montons à Jérusalem et le Fils de l'homme sera livré aux principaux sacrificateurs et aux scribes. Ils le condamneront à mort, le livreront aux païens, se moqueront de lui, cracheront sur lui, le flagelleront et le feront mourir. Et 3 jours après, il ressuscitera. » Les deux fils de Zébédée, Jacques et Jean, s'approchèrent de Jésus et lui dirent « Maître, nous désirons que tu fasses pour nous ce que nous te demanderons. » Il leur dit, « Que désirez-vous que je fasse pour vous ? » Donne-nous, lui dirent-ils, d'être assis l'un à ta droite et l'autre à ta gauche, dans ta gloire. Jésus leur dit, « Vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire, ou être baptisé du baptême dont je vais être baptisé ? » Ils lui dirent, « Nous le pouvons. » Et Jésus leur répondit, « Il est vrai que vous boirez la coupe que je vais boire et que vous serez baptisés du baptême dont je vais être baptisé. Mais pour ce qui est d'être assis à ma droite ou à ma gauche, ce n'est pas à moi de le donner, sinon à ceux pour qui cela est préparé. » Les 10 qui avaient entendu commencèrent à s'indigner contre Jacques et Jean. Jésus les appela et leur dit, « Vous savez que ceux qu'on regarde comme les chefs des nations les tyrannisent, et que les grands abusent de leur pouvoir sur elles. Il n'en est pas de même parmi vous. Mais quiconque veut être grand parmi vous sera votre serviteur. Et quiconque veut être le premier parmi vous sera l'esclave de tous. Car le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. » Amen. Jusqu'ici la parole de Dieu. Mon troisième point donc, eh bien c'est que on devient grand quand on abandonne nos prétentions à l'être et ici en servant à l'imitation de Jésus-Christ. On devient grand en servant à l'imitation de Jésus-Christ. Le titre de mon message que j'ai donné à mon message, c'est « Sauver pour servir ». Sauver pour servir. Voilà donc Jésus déterminé qui avance devant ses disciples pour aller vers Jérusalem. Et certainement qu'un sentiment de solitude l'habitait. Il savait ce qu'il attendait. Jésus rappelle ses souffrances à venir à ses disciples. Et c'est la troisième fois, si vous vous rappelez. C'est la troisième fois. Mais ici, c'est la première fois où il mentionne les païens. Il précise la responsabilité aussi bien des juifs qui le crucifieront, qui prononceront la sentence, que les non-juifs, les romains, qui le crucifieront, qui l'exécuteront, la sentence prononcée par les juifs. Ses disciples, sur la route de Jérusalem, ses disciples à sa suite sont dans la crainte. Parce qu'ils savaient, ils avaient vécu l'hostilité des juifs, des chefs religieux juifs, allant jusqu'à vouloir la mort de Jésus. Et puis brutalement, sans aucune transition, et de manière même déplacée, voilà que Jacques et Jean font une requête à Jésus. Qu'est-ce qu'ils lui demandent? Ils lui demandent des places d'honneur, pas moins. Les places d'honneur de siéger avec lui dans sa gloire, l'un à sa droite et l'autre à sa gauche, dans son règne. Non, Jacques et Jean ne savaient pas ce qu'ils demandaient, comme leur dit Jésus. Ils n'avaient pas compris qu'avant la gloire, il y a la croix. Il y a la croix, ce par quoi Jésus allait passer. Jésus allait recevoir la coupe de la colère de Dieu qui nous était destinée. Nous qui avons tous désobéi au Seigneur, Jésus allait la recevoir à notre place, cette coupe de colère. Il allait être submergé par un baptême de souffrance qui l'ont submergé. Un baptême d'une immense douleur. Alors à la question de Jésus s'ils pouvaient eux aussi boire la coupe et le baptême de Jésus, ils répondent « Nous le pouvons ». Et par là, ils montrent bien qu'ils étaient dans un autre monde imaginaire que la réalité qui allait suivre. Il y aura bien deux personnes qui seront à droite, l'une à droite et une à la gauche de Jésus, au moment de la crucifixion, deux brigands sur la croix. Jacques et Jean auraient-ils été si téméraires s'ils l'avaient su? Mais Jésus les prend au mot. Jésus les prend au mot. Nous savons que Jacques mourra en martyr. Plus tard, il sera tué par le roi Hérode. C'est dans Actes 12, verset 2. Et puis l'apôtre Jean, eh bien, il a terminé sa vie, en tout cas sur l'île de Patmos, où il a été emprisonné. Apocalypse 1, verset 9. Alors on peut se dire... Oui, leur requête d'être avec Jésus, quelque part, elle était quand même... Elle était noble. Elle était noble. Ils voulaient être au plus près de Jésus. Mais elle était inopportune au moment où Jésus allait droit à la croix. Lui, Jésus, recherchait la compassion. Tout fils de Dieu qu'il est, il était aussi homme. Il recherchait la compassion auprès de ses disciples. Eux ne recherchaient à ce moment-là que leurs intérêts personnels. Et les 10 autres, pas mieux. Pourquoi eux et pas nous, en quelque sorte? Les 10 autres s'étaient indignés à la requête de Jacques et Jean. Eux aussi voulaient leur place d'honneur. Et Jésus qui cherchait un peu de compassion dans tout ça. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de vous sentir seul, incompris? Vous passez par des moments où personne ne vous comprend. Vous n'avez pas l'impression, vous avez l'impression que vraiment que vous vous sentez abandonné. À un moment où vous avez le plus besoin d'aide, paf, personne. Il y en a un qui vous comprend. Jésus est passé par là, avant vous. Il vous comprend. Il est allé jusqu'à la croix pour ne plus qu'on se sente seul. Il a enlevé la séparation qu'il y avait entre lui, entre nous et Dieu, si nous l'avons accepté. Il nous comprend, il vous comprend. Alors pourquoi une telle requête de la part de Jacques et Jean? Alors on se souvient, dans ce qui précède, Jacques et Jean avaient été les privilégiés, avec l'apôtre Pierre, de voir Jésus comme ils ne l'avaient jamais vu dans sa gloire. C'est-à-dire dans sa gloire lorsqu'il a été transfiguré. Et peut-être que ça leur a monté à la tête. Waouh ! On a assisté à un spectacle là que personne d'autre n'a vu. Mais soyons clairs. Peut-être que vous avez vécu des expériences que d'autres n'ont jamais vécues. Mais ce ne sont pas nos expériences, peut-être hors du commun, qui nous rendent grands aux yeux du Seigneur. Et ce récit est là pour nous le rappeler. Ils avaient bien compris qu'il était le Messie, mais ils n'avaient pas encore compris son humilité. Pourtant, et là on peut vraiment s'inspirer de la pédagogie de Jésus, Jésus répète et répète et répète. Jésus venait juste de leur dire au verset 31, plusieurs des premiers seront les derniers et les derniers seront les premiers. Voilà, parce qu'ils se sont posé la question là-dessus. On n'aurait peut-être pas fait mieux. Hein. Et puis un peu avant, quand on remonte dans les textes que nous avons déjà vus, Jésus leur avait déjà annoncé ses souffrances à venir et les disciples, vous vous souvenez, avaient déjà discuté entre eux de qui serait le plus grand dans un autre récit. C'était au chapitre 9, verset 35 et Jésus leur avait répondu « Si quelqu'un veut être le premier, il sera le dernier de tous et le serviteur de tous. » Jésus leur avait déjà dit cette vérité un peu auparavant. Mais ils n'avaient toujours pas compris vu la requête de Jacques et Jean. Alors en bon pédagogue, que fait Jésus? Il répète. Et on a besoin qu'on nous répète. D'où l'importance de lire la parole quotidiennement. Vous avez déjà lu votre Bible. Vous l'avez lu une fois. Eh bien, recommencez. Ils n'avaient toujours pas compris. Que fait Jésus? Il va le répéter. Versets 43 et 44 de notre texte ici, Jésus dit « Mais quiconque veut être parmi vous sera votre serviteur. Et quiconque veut être le premier parmi vous sera l'esclave de tous. » Le mot esclave, il passe pas très bien hein, dans notre société. Parce que les valeurs du royaume de Dieu sont inverses de celles du monde, comme on l'a déjà vu, où Jésus a pris le modèle des enfants. Elles sont l'inverse de celles du monde. Les valeurs du monde, c'est les grands qui dominent sur les petits. Je vous apprends rien. Quand vous suivez l'actualité, ce sera celui qui aura la meilleure place dans le monde politique. Alors que dans le royaume de Dieu, la véritable grandeur, elle est liée au service. Elle est liée au service. Elle vient d'un service volontaire et humble. Et ô combien on aimerait que ceux qui aspirent à gouverner nos politiques, on aimerait, n'est-ce pas, qu'ils aient cet esprit de service, qu'ils veulent servir le pays et non pas leurs propres intérêts. Nous pouvons prier dans ce sens. Dans le royaume de Dieu, la véritable grandeur est liée au service. Elle vient d'un service volontaire et humble, intentionnel. Et Jésus, lui, eh bien, il met en pratique ce qu'il prêche. Lui, le Très-Haut, il est venu s'incarner en tant qu'homme pour servir. Le verset 45 qui suit, c'est un verset clé. C'est le verset clé de tout l'évangile, et particulièrement de l'évangile de Marc, qui est l'évangile du serviteur. Je le relis. « Car le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir, et donner sa vie en rançon pour beaucoup. » Ce verset, ça résume toute la vie de Jésus, son passage sur terre. Il y a deux verbes clés qui résument toute la vie de Jésus. Dans l'ordre, le Fils de l'homme est venu pour, premièrement, servir, et deuxièmement, donner sa vie. Servir et donner. Servir et donner, ça reprend tout le plan de l'évangile de Marc, et ça reprend toute la vie de Jésus. Ces deux verbes, à eux seuls, reprennent toute la vie de Jésus. Du début de l'évangile de Marc jusqu'au chapitre 10, eh bien, nous avons vu toute la vie de service de Jésus. Jésus en train de servir, de faire du bien, de nourrir les personnes, de ressusciter les morts. Il a servi. Et puis, ensuite, à partir de là, hein, ce chapitre 10, eh bien, là, il va vers Jérusalem. Après avoir servi, vient le récit du don de sa personne. Jésus donne, il va se donner lui-même comme rançon pour beaucoup. Donc premièrement, il a servi et ensuite il a donné sa vie. Jésus nous a rachetés par son sang. Une rançon, c'est pour racheter quelqu'un. Si nous l'avons accepté, nous lui appartenons. Il a payé pour nous de son sang. Alors, une fois qu'on a reçu le Seigneur, une fois qu'on a reçu le Seigneur qui s'est donné, il s'est donné pour qu'on le reçoive. Une fois qu'on a appris à renoncer à nous-mêmes, à ce que nous savons être un péché qui nous... Enfin, on apprend, on est toujours, chaque jour, en train d'apprendre à renoncer à des choses qui déplaisent au Seigneur. Une fois qu'on l'a reçu, une fois qu'on veut renoncer à nos péchés, eh bien, à renoncer à tout ce qui prend la place du Seigneur, la question du jeune homme riche prend toute sa place ici. Mais je vais m'arrêter à « que dois-je faire ?» Pas pour être sauvé, mais « que dois-je faire une fois que je suis sauvé ?» Que dois-je faire ? Non pas pour être sauvé, mais une fois qu'on est sauvé. Que faire ? Qu'est-ce que je vais faire de ma pauvre vie ? Pour reprendre le titre d'une chanson de Pierre Lachat, qu'il a écrite il y a longtemps. Qu'est-ce que je vais faire de ma pauvre vie ? C'est simple. Y a-t-il encore quelque chose à faire, une fois qu'on est sauvé ? Oui, c'est simple. Servir. Servir. Servir, et lorsque nous servons, la boucle est bouclée. Parce qu'il s'agit bien d'une boucle. Regardez comment... La boucle est bouclée, c'est la boucle qui a été amorcée par le Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus est venu pour servir, puis il s'est donné en rançon pour que le reçoive. Ensuite, nous, une fois que nous l'avons reçu, qu'est-ce que nous pouvons faire ? Et seulement une fois que nous l'avons reçu, nous pouvons alors donner, et nous pouvons alors servir à notre tour. Et la boucle est bouclée. Le salut a tout son sens. Nous sommes sauvés pour servir. Dieu nous sauve pour le servir. Alors oui, nous avons, chrétien ou pas, païen ou juif ou chrétien, nous avons tous un maître. Nous avons tous un maître. Même ceux qui disent, et je l'ai entendu il y a très longtemps à mon travail, ni Dieu ni maître. La personne se croyait libre. Sauf qu'elle ne se voyait pas esclave de ses penchants, de ses passions et de Satan. De l'argent aussi. Et Jésus a dit, vous ne pouvez servir deux maîtres. Vous pouvez servir Dieu et maman. Jésus, le plus grand, s'est fait le serviteur de tous. Il a donné sa vie pour tous. Pour qu'on ait tout naturellement envie de le servir. Où est-ce qu'on peut le servir ? Dans l'église locale. L'église locale est l'endroit idéal pour servir le Seigneur. Et ceux qui étaient là hier, en tout cas, je suppose que c'est le cas pour vous. Hier, on a passé l'après-midi à ranger la salle des enfants. Et on s'est retrouvés en église. C'était un jour supplémentaire dans la semaine ou un jour... En plus du dimanche. Et quand on s'est mis ensemble, on a retroussé nos manches pour ranger la salle, nous avons passé j'ai passé un bon moment. Alors évidemment, on a retroussé nos manches. De servir ensemble, ça donne une joie aussi. Et j'en garde en tout cas, pour ma part, un bon souvenir. Et il y en aura d'autres, j'espère. Il y a des occasions de servir. Les occasions ne manquent pas dans l'église. Si tu veux grandir, il te faut servir. Là est la vraie liberté. Si tu veux grandir, il te faut servir. Oui, le salut est par grâce, purement immérité, donné à ceux qui croient. Et les récompenses au ciel, elles seront en fonction de nos mérites. Parce que Dieu est juste. Tout ce que vous faites pour lui est comptabilisé. À l'euro près ou au temps près, à la seconde près, tout est comptabilisé là-haut, dans ce que vous faites pour lui. Peut-être les autres ne voient pas. Les récompenses au ciel, après le salut, seront fonction de nos mérites et de notre fidélité à Christ. Et elles ne seront certainement pas arbitraires. Et pour terminer, j'aimerais cette petite histoire. Il y avait donc une châtelaine sur terre qui vivait dans l'opulence. Et puis, elle vivait pour elle-même. Ce riche avec Lazare. C'est une autre histoire qui n'est pas dans la Bible. Une châtelaine qui vivait dans son château, qui faisait bonne chère, qui vivait dans l'opulence. Et puis il y avait un pauvre, elle passait devant, et elle ne s'en occupait pas. Cette femme, cette châtelaine, elle faisait Elle vivait bien confortablement. Elle était chrétienne. Et ce pauvre, il était aussi chrétien. Mais lui, il faisait tout ce qu'il pouvait avec ce qu'il avait. Et puis les deux meurent et vont au ciel. Et puis la châtelaine, une fois arrivée au ciel, dit « Mais attendez, mais c'est ça ma demeure que je vais avoir ?» Ce à quoi on lui répond « Mais madame, c'est tout ce que nous avons pu vous construire avec votre placement, ce que vous avez placé au ciel. » Oui, mais lui, là, le pauvre, pourquoi il a un château? Mais avec tout ce qu'il a fait de son vivant, eh bien, nous avons pu lui construire ce beau château. Je vais prier. Père Céleste, merci parce que tu nous as envoyé Jésus qui a montré le chemin, qui est le chemin. Jésus qui a servi, Seigneur, qui a fait tant de bien et qui a donné ce qu'il avait, ce qu'il avait. Ce qu'il pouvait donner de plus cher, c'est-à-dire sa propre vie. Seigneur, il l'a fait pour nous, pour que nos vies soient transformées, pour que nous ayons la joie, Seigneur, de te connaître et aussi de te servir. Aide-nous, Seigneur, à regarder à toi, à vivre cette joie d'être à ton service, chacun pour notre part, chacun à notre niveau, avec ce que tu nous as donné, Seigneur, chacun pour notre part, sans nous comparer les uns aux autres, Seigneur. Te demandons de nous guider dans ce que tu as préparé d'avance, Seigneur. Et merci de nous aider à voir ton plan, Seigneur, dans les circonstances de notre vie et ce que tu permets, ce que tu ne permets pas. À voir les portes qui sont ouvertes, Seigneur, celles qui sont fermées aussi. Seigneur, que vraiment nous ayons ce désir de te servir et que nous vivions, Seigneur, cette joie de te servir, Seigneur, chacun pour notre part et en Église, Seigneur. Oui, Seigneur, nous voulons nous rappeler que tout vient de toi, tout ce que tu nous donnes, et que, Seigneur, c'est en donnant qu'on reçoit, pas seulement de l'argent, mais aussi du temps, et selon chacun, bien sûr selon ses possibilités, Seigneur, tu connais la charge de chacun, charge familiale, charge professionnelle, mais aide-nous, Seigneur, dans nos priorités, à te mettre en premier, Seigneur, et tout le reste viendra à sa juste place. Merci, Seigneur, que notre Église, bénis-la, et que, Seigneur, elle brille de ta lumière dans cette ville de Figeac, pour ta seule gloire. Au nom de Jésus. Amen. Amen.